A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferbeuf.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Marie Stoclet-Bardon, qui est fondatrice de La Meringuée. Bonjour Marie.
Bonjour Alexis.
C'est un vrai plaisir de t'avoir pour ce podcast. On va parler de gastronomie, de nourriture, c'est ta grande passion avec La Meringuée. Mais avant, je crois que tu étais dans des grands groupes et tu as été au marketing. Comment ça s'est passé, cette transition finalement?
J'ai fait une école de commerce et j'ai fait un MBA marketing dans une grosse boîte américaine pendant 3 ans. Et ensuite, je suis rentrée dans le groupe qui commercialise Cœur de Lion. Donc, j'ai passé 8 ans à vendre du camembert.
Camembert, bravo.
Et ensuite, j'ai été dans ce même groupe promue directrice marketing de la Maison du Chocolat. Donc là, j'ai découvert le retail, la gastronomie, le chocolat de luxe. Et finalement, je n'ai plus jamais quitté le retail après, parce que c'est vraiment mon truc. Et ce contact client direct, c'est un vrai bonheur.
En devenant entrepreneur, d'ailleurs, avec ton mari, donc vous avez fait ça en famille, c'est courageux. Il y a à peu près 8 ans, vous avez lancé La Meringuée.
Ouais.
Et La Meringuée a démarré rue de Lévis, dans le 17e arrondissement.
Absolument. Et alors, c'est parti. Mon mari et moi avions bu l'entrepreneuriat dans le biberon.
Oui.
Lui, fils de vigneron, moi, mon père aussi avait monté sa boîte. Donc, ça nous avait déjà chatouillé. J'avais monté moi une boîte aux États-Unis quand je l'avais suivi en quittant la Maison du Chocolat, autour de la, ça s'appelait Cooking Rendez-vous, autour de la bouffe. Et quand en fait on s'est retrouvés, moi à la fin de mon aventure chez Fauchon, où j'avais géré tout ce qui était digital et cadeaux d'affaires et puis les magasins, et lui à la fin de son aventure dans la boîte dans laquelle il était depuis 20 ans, qui faisait de l'énergie, l'idée qui était venue et qui était devenue un jeu dont on va reparler là dans 2 secondes, on s'est dit en fait on y va quoi.
Vous êtes lancé.
On s'est lancé tous les deux en même temps, en le faisant ensemble. On n'a pas vraiment verbalisé le fait qu'on le faisait tous les deux. Je pense que 10 ans avant, on m'aurait dit non, le fais pas avec ton mari. J'aurais dit je ne le ferai jamais avec mon mari. Puis finalement.
Ça s'est bien goupillé. Et je crois que c'est lui qui a un peu repéré ton talent, parce que tu faisais des pavlova et que un peu c'était Desperate Housewife à Boston ou à Paris. Et elle goûtait, tes copains adoraient tes gâteaux en fait. Et c'est comme ça que ça a démarré l'histoire quand même.
En fait, j'ai commencé à faire des pavlova chez moi. La première, c'est un produit d'origine australienne. C'est inventé par un pastissier australien ou néo-zélandais en hommage à une ballerine russe qui s'appelait donc Anna Pavlova.
Ah bien, et une love story derrière quoi.
Et une love story, ouais, le pâtissier avait les yeux qui envoyaient des cœurs. Il a eu l'idée de mettre des fraises sur l'association de meringue et de crème.
Voilà, donc il y a un dessert, on le sait, un peu plus léger,
ouais,
un peu original, qui n'est pas un moelleux au chocolat, mais qui amène un peu quelque chose de plus aérien et souvent qui est bon dans les restos, parce qu'on se dit qu'on a fait un gros repas assez sympa, ça finit sur une note un peu aérienne. Il y a un peu de ça.
Oui, mais alors, la pavlova, elle est bonne quand la meringue est bonne,
quand
la meringue est moelleuse. Et dans les restaurants, effectivement, aujourd'hui... Alors, donc, il y a 10 ans, dans mon histoire, la pavlova, c'était pas connu en France. Aujourd'hui, c'est en train de devenir le tiramisu des années 2020.
Oui, c'est un best-seller.
Ça apparaît partout. Et effectivement, parce que c'est léger. Sauf qu'il faut que la meringue soit bonne.
D'accord. Donc, toi, t'es la pro de la meringue.
Voilà, moi, je suis la pro de la meringue. Et donc, j'ai commencé à faire des pavlovas chez moi. Mes invités ont léché le plat. J'ai commencé à les personnaliser, à mettre moins de sucre, à infuser dans la crème des agrumes, des herbes, du poivre,
etc. Fait plaisir
du
sur thé, les recettes.
Voilà. Et j'ai des copains qui, un jour, m'ont dit « Mais arrête de nous faire goûter. Si vous en faites un business, si vous le faites, on investira. » Sachant que mon mari m'avait dit avant, c'est trop bon ton truc, il faut en faire un business. Et donc, d'un espèce de jeu, on est devenu sérieux. L'emplacement qui est notre premier emplacement rue de Lévis dans le 17e, en fait, était à côté de chez nous. On l'avait repéré. Et quand il a été recommercialisé, en fait, on s'est positionné dessus.
Vous êtes lancé, quoi.
On s'est lancé, voilà. Le mec qui était propriétaire des murs, quand il nous a dit... sortez-moi vos 3 derniers bilans. On l'a regardé en rigolant en disant non, 3 derniers bilans, c'est le gâteau sur la table. Et la présentation. Et il a dit allez, je prends le risque, j'aime bien ce que vous faites, banco, on y va.
Parfait. Donc c'est une belle histoire. Et je crois d'ailleurs que la rue de Lévis est devenue importante puisque c'est votre centre de production des pavlova et même des différentes cuisines et qui fournissent maintenant les autres points de vente. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que depuis 8 ans, vous êtes étendu. Vous avez maintenant 5 points de vente dans des super rues parisiennes, rue des Martyrs, rue Daguerre, rue du Cherche-Midi et même à Neuilly-sur-Seine.
Ouais.
Donc, vous êtes bien implanté.
Rue de Bouche, entre des fromagers, des bouchers, des primeurs.
Voilà, donc location, tu me disais, c'est comme l'immobilier, le facteur clé, c'est la localisation.
Ouais.
Deuxième facteur clé, c'est la qualité des produits, bien sûr.
Alors, évidemment, quand on est commerçant, si finalement, il faut toujours se poser la question avec bon sens en se disant pourquoi est-ce qu'une pâtisserie, une boulangerie-pâtisserie a une vitrine sur la rue avec des gâteaux sur la rue. Parce qu'en fait, on doit passer devant, avoir envie de rentrer. Donc, passer devant, c'est la location. Ouais. Avoir envie de rentrer, c'est effectivement la beauté des gâteaux. Et puis ensuite, il faut avoir envie de revenir et il faut que les gâteaux soient bons. Donc là, j'enfonce des portes ouvertes. Mais de temps en temps, quand on intellectualise un peu trop, on fait des erreurs parce qu'en fait, on a oublié ça.
La base, quoi.
La base. On passe devant, on a envie de lécher la vitrine.
Parce que la base, c'est quand même ça du commerce. Moi, il y avait une stat qui m'avait toujours marqué, c'est que dans les commerces physiques, quand les gens rentrent, je crois, il y a une proba de 30 à 50% qu'ils achètent, quand même très élevée. Sur un site de e-commerce, c'est 5 à 10% parce qu'évidemment, il y a beaucoup de churn, etc.
Même moins que ça. Le taux de transfo sur un site e-commerce, on est plutôt à 3. Et à 3, on ne travaille pas si mal.
Donc ça, c'est l'avantage
du physique. Notre taux de transfo à nous,
il est très haut.
Il est hyper haut. Oui, donc effectivement, quand quelqu'un rentre dans ta boutique...
En général, il veut déjà acheter. Quoi.
Ouais, nous, on a, je pense, un taux de transfo plutôt de 80% dans nos boutiques.
C'est clair. Puis quand tu vas aussi dans des choses spécifiques comme Pavlova chez toi, en général, tu y vas pour quelque chose.
Alors, on parle de la meringue, c'est drôle parce que... Comme effectivement la Pavlova, c'est d'avant tout de la meringue, que notre meringue à nous, elle est très différente d'une meringue de boulanger, pâtissier traditionnel qui est cuite à cœur et qui est presque sèche. La nôtre, elle est très moelleuse à l'intérieur. Elle est craquante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur.
Ça donne faim, ton truc.
Et donc, effectivement, on fait redécouvrir la meringue à plein de gens. Donc, on a des gens qui s'arrêtent et qui disent « Non, mais j'aime pas la meringue. » Là, on fait goûter. « Attendez, vous n'avez pas goûté la nôtre. » Et là, on va dire en 8 ans, j'ai une personne qui m'a dit « Non, vraiment, j'aime pas. »
Ok, donc en tout cas, la meringuée, est vraiment originale et s'est développée sur ce marché. Alors oui, on avait parlé aussi off-micro, je dirais, de l'enjeu aussi. C'est un message qui tient à cœur sur les commerçants, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, ça a été quand même très difficile.
Ouais.
Et tu disais que c'est vrai que souvent, on ne met peut-être pas assez en avant ces forces vives des villes, des villages, et voilà, des gens qui aujourd'hui amènent des services importants.
Le commerce de centre-ville, en fait, c'est le poumon de nos villes. Donc, en fait, le message que j'ai envie de partager, c'est allez voir vos commerçants, allez acheter des produits chez vos commerçants, déplacez-vous, allez dans ces rues de marché, que ce soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Blois, enfin peu importe. Il faut faire vivre vos commerçants parce que demain, si vos commerçants ne peuvent plus vivre parce qu'effectivement, ils n'ont pas assez de chiffre d'affaires, les centres-villes qui sont des poumons vont mourir. Et quand on sait quand le centre-ville meurt... on a un vrai problème structurel ensuite.
Bien sûr.
Et effectivement, le Covid a été un élément de... Alors, si je parle du commerce parisien, le Covid a été un élément de changement très important des rythmes des Parisiens. Beaucoup se sont achetés des maisons à la campagne.
Ils partent le jeudi soir pour aller basculer en province.
Exactement. Ils partent le jeudi soir. Et moyennant quoi, ils ne reçoivent pas des copains le samedi soir.
Ça, c'est pas ouf pour les commerçants des villes. Ça, c'est clair. J'en parlais même avec des commerçants de Levallois-Perret. Ils sont même touchés, comme tu dis, par... Parce que c'est vrai que ça a tout redéfini les cartes, même sur la manière des gens de travailler. Le télétravail n'a pas eu aussi que du bon, faut le dire.
Alors, le télétravail a beaucoup de bons. Après ça, dans les entreprises, on peut en débattre.
Oui, ça, c'est un autre sujet.
Mais
il a un vrai impact,
Il y a un impact sur le commerce.
Sur les commerces locaux.
Mon message à la mairie de Paris, c'est s'il vous plaît, rendez-nous la vie facile. Parce que déjà, notre vie n'est pas très simple. On sort quand même tous un peu cabossés du Covid. En fait, faites en sorte que la vie pour nous soit simple et qu'on puisse rester, qu'on puisse continuer à travailler, qu'on puisse.
Comment ils pourraient aider plus ? Comment les collectivités publiques pourraient un peu plus se soutenir finalement ?
Alors, ça peut être des choses. Bon, moi, je suis entrepreneur, donc quand on est entrepreneur, on fait des choses aussi très bassement pragmatiques au quotidien. Quand on a à batailler avec la mairie de Paris sans interlocuteur parce qu'ils vous facturent des droits de terrasse en double et qu'on n'arrive pas à les avoir,
c'est pas très sympa.
J'ai autre chose à faire en fait que de batailler là-dessus en fait.
Donc peut-être il y a des villes aussi de taille intermédiaire qui peuvent parfois font pas mal d'événements sur les commerçants qui peut être sympa.
Exactement, ça
peut jouer de redonner de l'engouement à l'achat parce que c'est une année quand même on le sait très difficile pour les Français. Inflation, on a bien compris qu'il y en avait une, même si on oublie qu'il y en avait des plus graves il y a 20 ans, mais bon, les médias sont des, sont des champions. Ça a quand même un impact sur la consommation, évidemment.
Nous, on a essayé de limiter, on a un peu augmenté nos tarifs parce qu'on n'a pas eu le choix. On a essayé de limiter au maximum. L'une des choses aussi, en fait, à la meringue, ce qu'on aime, c'est les choses simples. bien faite, bien exécutée. Il n'y a rien de meilleur que... Donc, on fait des pavlova. Travail bien fait. Voilà, notre star, c'est une crème fouettée, une pavlova avec une crème fouettée au citron vert, des framboises et des fruits de la passion. Les framboises viennent de Corrèze. Et on essaye d'avoir des goûts qui sont francs, qui ont de la pêche, légers. Alors, moi, je suis une fanatique d'agrumes, par exemple. J'en mets beaucoup dans mes pavlova. Et le côté en direct avec des producteurs de fraises ou de framboises, par exemple, nous permet aussi... parce qu'on est en direct, d'avoir de la qualité de fruits qui est encore meilleure pour des tarifs qui finalement, ben, on a chanté l'intermédiaire. Et donc, on arrive à faire en sorte de ne pas trop augmenter nos prix. Donc, on essaye de se mettre à la place de nos clients pour arriver à avoir un gâteau qui puisse mettre sur leur table facilement quand ils ont... on est un peu la bistronomie de la pâtisserie, quoi. Oui. Quelque part, ça doit être simple, accessible. On passe devant la meringue, tiens, je prends un dessert pour ce soir avec mes copains, quoi.
Alors, le marketing local, il est devenu très important, et même le marketing dans ton domaine. Alors, il y a des nouvelles stars comme Cédric Grolet qui reprend un petit peu le flambeau de Pierre Hermé. Et c'est vrai que l'influence digitale est devenue assez importante. Hein. Donc, en social media, toi, t'es assez développé. Plus de 30 000 followers sur Instagram. Et puis, bon, c'est devenu très important, cette image. Je crois que toi, t'aimes beaucoup. Il faut le choix des photos, le choix des vidéos. Il faut vraiment se donner envie, c'est un art quand même de montrer tout ça.
Je te disais tout à l'heure, en fait, il faut qu'on ait envie de lécher la vitrine. Bah, c'est pareil sur Instagram ou c'est pareil sur notre site internet. Il faut qu'en fait les images donnent envie, soient hyper gourmandes. Après, on est une petite boîte, donc moi, j'ai pas les moyens. Et puis alors, oui, un élément qui est important quand même sur tout ce qui est réseaux sociaux, c'est la réactivité et une certaine spontanéité. Et je pense qu'en fait, la professionnalisation des réseaux sociaux a fait qu'à un moment, je pense qu'il y a des marques qui ont perdu ça. Quand on fait un planning deux mois à l'avance,
c'est parfois ce qu'on peut regretter d'ailleurs dans les marques de foot, c'est que c'est un peu trop figé et ça peut manquer un peu d'humain, de vivant, de coulisses, d'un petite vidéo savoir-faire.
Et des trucs finalement qui ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave.
Oui.
Tiens, il fait chaud, je vais faire une vidéo où je dis aujourd'hui il fait chaud et donc je sais. Enfin,
bien sûr.
Les gens savent que je l'ai fait ce matin, quoi.
Oui, c'est quelque chose de frais.
Le côté effectivement extrêmement.
C'est vrai que le monde de la foot, toi qui as fait comme ça dans tous les sens avant avec Savencia, Fauchon et tout. Parfois, c'est très codifié. Toi, tu l'as vécu. C'est-à-dire, c'est des obsédés de la plateforme de marque. C'est ultra... Comment tu as vécu ça avant ? Parce que...
Alors, je suis une obsédée de la plateforme de marque aussi.
Oui.
Parce que pour moi, c'est la vision, là où on va.
C'est le branding, quoi.
Exactement. C'est finalement, je dis toujours à mes petits stagiaires quand j'en recrute certains, une marque, il faut pouvoir la décrire comme une personne. C'est une personne qui est vivante, qui va évoluer, qu'il faut savoir décrire avec sa personnalité. Donc, nous, on est au service de la marque. Maintenant, je leur dis aussi parfois, quand ils écrivent des choses, ça pue le marketing.
Oui.
Donc en fait, il faut arriver à avoir un ton.
Une espèce de spontanéité, d'authenticité.
Alors,
après, il y a du taf pour aboutir souvent à l'épure. Ça se fait pas, c'est pas une V1, quoi.
Oui, c'est pas une V1, mais sauf que quand on le voit, on se dit c'est évident.
D'accord.
Et effectivement, alors la difficulté que j'ai à la meringue, c'est qu'en fait, quand les posts, les emails, tout ce qu'on fait en termes de marketing et de communication, c'est moi qui écris. Donc j'écris avec mes mots.
Oui, t'as l'édito, quoi.
Mais en fait, je vais vite. Et quand effectivement, j'ai dans l'équipe des stagiaires qui viennent donner un coup de main, parfois, ils vont prendre vachement plus de temps à arriver à trouver la spontanéité des mots que je vais employer.
Ça, c'est difficile quand on est dans des business liés à l'artistique où le texte est important, d'être vraiment dans les baskets de celui ou celle qui est un peu le rédacteur en chef, quoi.
Exactement.
C'est exactement ça. Alors, toute dernière partie du podcast, alors ça, c'est la question usuelle que je pose aux invités, c'est les goûts en matière de plutôt ciné, série. Je crois que tu es une grande lectrice, non ?
Ouais, je lis, je suis assez monomaniaque aussi.
Je crois que tu voulais même bosser dans l'édition quand tu étais plus jeune, c'est
ça ? Ça fait partie des endroits que j'aurais bien aimé. Des rêves, mais en fait, bon, à la limite, j'avais fait une école de commerce, donc l'édition, c'était pas pour les gens d'école de commerce, en tout cas pas il y a 30 ans.
Et sinon, très picouzé aux séries, Game of Thrones, je crois.
Familialement, avec mes enfants.
T'aimes bien les grandes séries qui te transportent. Et en film ciné, un film qui t'a marqué peut-être ?
Alors, tu vois, celui qui me vient à l'esprit là, c'est Au revoir là-haut. Là, c'est à la croix.
Ah oui, Au revoir de Albert Dupontel. Ouais, c'était un film magnifique.
Merveille.
Ah oui, j'avais adoré.
Merveille, absolument.
Espèce de thriller dans les tranchées là. Ah ouais,
c'était incroyable.
C'était un film coup de poing, quoi.
Ouais, et puis le livre avait été un livre coup de poing.
Oui. De Lemaître, c'est ça,
Pierre Lemaître. Je les ai tous lus d'ailleurs.
T'avais lu le livre avant de voir le film de Dupontel.
Ouais.
Un super film, effectivement. Et c'est clair que. Toi, tu penses que le cinéma, ça peut repartir ou pareil, ils ont pris un petit coup avec le Covid, toi
Alors, j'ai envie de dire, il faut qu'on se déplace et qu'on prenne ses pieds. Donc, qu'on prenne ses pieds pour aller au cinéma, parce qu'une séance de cinéma, c'est quand même autre chose qu'une série Netflix, même si c'est génial. devant sa télé. De la même manière envie, que aller faire ses courses dans une rue de commerce, commerce de bouche, c'est mieux que de se faire livrer par, des marques que je ne citerai pas.
Par contre, tu l'as dit, pour reprendre une analogie, il faut une très forte envie. Et hier, j'ai partagé un post de citation de Christopher Nolan, le grand réalisateur, qui a dit « Les gens retourneront en salle s'il y a des très bons films attractifs, originaux ». Qui donne envie, donc je pense que c'est un peu comme les Pavlova.
Du bon sens, exactement.
Non, mais c'est vrai qu'on peut faire des grands débats, mais à un moment, la demande, elle vient quand il y a une offre qui est costaud aussi en face. Fait un petit peu écho à ce que tu disais sur les produits. Et la toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer dans son business du retail et monter sa marque ou sa chaîne de food ou autre, d'ailleurs.
Alors, il faut pas avoir peur, déjà. Donc, il faut être aligné avec soi-même par rapport à la prise de risque. Deux, effectivement, on doit pas être entrepreneur. C'est pas,
il faut l'être. Obligation,
non, c'est pas une obligation. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu le défaut qu'on peut avoir, à mon avis, en France.
C'est le tropisme.
On a basculé d'un extrême à l'autre. C'est, il faut être entrepreneur. Non, il faut pas. Il faut l'être si c'est ce qu'on a envie de faire et si on est fait pour ça.
Et si on est prêt à courir le risque.
Si on est prêt à courir le risque, si on est prêt à dormir la nuit. Pas dormir la nuit si on n'a pas de quoi payer ses salaires, trouver des solutions, et puis être entrepreneur, comme on le dit souvent dans nos métiers, on fait la stratégie en même temps, mais on balaye plus souvent qu'on fait la stratégie.
Il y a pas que c'est les 80-20, c'est la loi de Pareto, quoi. Il y a les 20 de plaisir.
Voilà, exactement. Donc on se fait plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre développement, si je parle stratégie pour la meringuée, à la fois on a 5 magasins, ça fonctionne bien. On a un produit en grande surface pour faire sa Pavlova en 5 minutes chez soi.
Chez Monoprix, qu'on salue.
Chez Monoprix, voilà, qui s'appelle 1-2-3 Pavlova, et c'est un kit pour faire sa Pavlova en 5 minutes. Donc, et sachant que la meringue, c'est le produit qui est le plus compliqué à faire. Donc nous, on est des spécialistes. Bon, voilà, ça va aider les gens à faire des... Mmh. Et effectivement, la Pavlova, elle est bonne quand la meringue est moelleuse, on l'a compris. Donc on a aussi un produit d'ailleurs qu'on met à disposition des restaurateurs pour qu'eux puissent faire leur Pavlova. Et c'est vrai que dans nos métiers, il ne faut pas avoir peur du risque. Mmh. Et il ne faut pas avoir peur du développement, il ne faut pas avoir peur de la stratégie, mais il ne faut pas avoir peur de balayer.
Et puis il faut y aller étape par étape, parce que c'est ce qu'on entend dans ton développement. Il fallait faire le premier, puis les 5, puis peut-être après un modèle franchisé en province, mais tout ça prend du temps, il faut consolider pierre après pierre.
Oui, alors ma plus grande qualité n'est pas la patience, mon mari non plus d'ailleurs, mon mari associé, mais en fait on apprend et on travaille sur soi.
C'est un marathon quand même, ça fait 8 ans que vous êtes dessus quand même.
Pour ne pas brûler les étapes. Donc aujourd'hui, effectivement, l'étape qu'on a devant nous, c'est la franchise en province, donc on est en train de monter le dossier. Pour qu'effectivement on puisse ensuite aller rencontrer des gens entrepreneurs qui ont envie de monter leur business avec notre aide, avec nos produits et notre marque, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Montpellier, à Nice, etc.
Et continuer à développer ton e-commerce qui représente déjà 10% des revenus, et là aussi tu continues ce chantier digital en parallèle.
Oui, alors tu disais ça effectivement en off, mais c'est vrai que un pâtissier à la fois. Aujourd'hui, pour moi, il doit être, ça aussi un des conseils qu'on peut transmettre à des jeunes qui voudraient se lancer, il doit évidemment ne pas oublier le bon sens des pâtissiers traditionnels et des choses qui font que on doit avoir une vitrine hyper gourmande sur la rue, par exemple. Mais à l'inverse, on est dans le monde, on est en 2023, on doit avoir un site internet marchand, bien fait, ergonomique, qui va apporter du service à nos clients.
Le fameux click and collect.
And collect ou livraison à Paris en ce qui nous concerne, ou expédition de macarons dans toute la France. Mais c'est, on a eu un site internet le premier jour de la première boutique. Parce que finalement, le digital, moi aussi, je l'avais pas mal bu dans le biberon, dans les entreprises précédentes. Et aujourd'hui, qui a un parcours qui n'est pas omnicanal, en fait. On a tous... on va sur le site, regarder, on va regarder sur Instagram, et puis on atterrit sur le site, et puis on va en magasin, ou on va en magasin, puis on retourne sur Instagram, et puis voilà,
c'est vertueux,
multifacette, quoi.
Eh bien, super, merci beaucoup Marie, c'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Merci à toi.
Merci Alexis.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.